Je me suis aperçue depuis quelque temps que je ne croyais plus au monde. Les escaliers du métro, ces couloirs et le claquement brutal des portes de sortie, je n'y crois plus. La table en bois à laquelle je suis assise, les pieds de cette table qui grince un peu sur le parquet de hêtre quand je m'y appuie, l'appartement de la voisine sous le parquet, je n'y crois plus. Le téléphone que j'ai à la main, son boîtier de plastique noir, les fils et les rivets minuscules qui s'alignent à l'intérieur, je n'y crois plus. Je ne me lasse pas de mesurer la diversité, la spécificité presque perverse de tous ces objets, de tous ces lieux, ces constructions qui n'existent pas. Ils ne cessent de m'étonner. La bonde de la baignoire m'étonne. Je crois que nous sommes des consciences liées ensemble par une même illusion, lancées à pleine vitesse dans un univers dont le fracas nous ferait mourir de terreur si nous l'entendions. Nous nous croyons statiques alors que nous sommes secoués comme une coccinelle sur la main d'un enfant qui court. J'écoute des pas dans la rue, un chariot de livraison qui brinque-balle, et dans les intervalles, sous le silence, il me semble entendre le grondement lointain de rochers qui se cognent et explosent. J'ai l'impression qu'il me suffirait de tourner un bouton, de changer la balance entre ce que mes oreilles perçoivent et ce que j'entends vraiment, et le fracas envahirait tout. J'en deviendrais sourde. La nuit, j'allume toutes les lumières. J'erre du salon à la chambre. J'écoute le bruit de mes pas. Souvent, tandis que je marche d'une pièce à l'autre, je m'arrête net, frappée de honte. Mais le sujet de ma honte n'est pas ce que j'ai pu faire. C'est ma personne tout entière.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Lequel d'entre nous pourrait affirmer qu'il n'a que de bons souvenirs de son adolescence ? Cet âge que les parents nomment ingrat et durant lequel on souffre chaque jour avec une intensité qu'on s'imagine à soi seul réservée. Plus vraiment enfant, pas encore adulte, notre être en métamorphose qui n'en finit pas de se forger une carapace s'observe avec une honte brûlante dans un miroir déformant. Jusqu'à 12 ans, chacun habite le monde avec aisance. Passé cet âge, un sentiment de perte irrémédiable nous envahit. Devenir grand, comme on dit, c'est se rogner les ailes. Flannery O'Connor, qui n'a écrit que sur cette déchirure, affirme qu'une fois franchi ce seuil, l'être humain entre en déclin. Mais faut-il en être rassuré ? Une fois adulte, bien peu s'en souviennent encore. Florence Sévos, elle, se souvient de tout. Absolument de tout. La solitude, la mélancolie, les rêves, les secrets. De ce monde effrayant qui remue doucement derrière les rideaux, de l'autre côté d'une porte, prêt à submerger l'apparente tranquillité du paysage quotidien. Tous ces livres, qu'ils s'adressent aux adultes ou aux plus jeunes, nous font voir le monde avec les yeux de l'enfant qui demeure, inchangé, à l'intérieur de chacun d'entre nous, et que ces mots font ressurgir, avec une force parfois dérangeante. Une bête aux aguets, son dernier livre, paru à l'Olivier, nous entraîne dans le monde scintillant et angoissant d'Anna, qui, après sa maladie à l'âge de 12 ans, ressent d'étranges changements en elle. Poétique, tendre et douloureux, ce roman agit sur nos mémoires comme une goutte de citron sur une plaie oubliée, mais toujours à vif. Bonsoir Florence Sévos.
Bonsoir Kathleen Evin.
Je viens de réaliser que la dernière fois que nous étions ainsi en studio, c'était 2016 pour la Sainte Famille. Ça me paraissait encore hier. Ce qui prouve que vos livres travaillent longtemps en nous, à condition sans doute de n'avoir pas oublié l'enfant que nous étions. Est-ce ainsi de la place de l'enfant que vous voyez, vous, toujours le monde aujourd'hui ?
En partie sûrement. Je m'aperçois, enfin, ne serait-ce que par exemple dans mon incapacité à faire deux choses à la fois, que j'ai dû garder une forme de perception qui est plus proche de la perception enfantine que de la perception adulte. Mais c'est drôle parce que vous disiez qu'il y a 4 ans, vous m'invitiez ici pour la Sainte Famille, et en fait je me souviens que les toutes premières notes que j'ai prises au sujet d'Une bête aux aguets, c'était pendant les derniers mois où j'écrivais le livre d'avant encore, Le garçon incassable. Donc les livres sont un peu... Ça fait comme des couches.
Comme des rhizomes sous la terre.
Voilà, et puis ça mature quand même très, très longtemps, c'est drôle. Et c'est vrai que ce livre-là, Une bête aux aguets, il est à la fois indissociablement lié à l'enfance et à ce changement d'état qui survient quand on a 12 ou 13 ans. Et pourtant, il me semble que j'ai utilisé en quelque sorte cette période parce qu'elle était le théâtre idéal pour convoquer des sentiments et des sensations qu'on éprouve parfois adulte. Quand, c'est comme si, dans le premier chapitre, la narratrice dit que si elle tournait un bouton, elle changerait la balance entre ce qu'elle entend et ce qu'elle devine, en quelque sorte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était un petit peu de changer la balance, d'être plus poreuse, en fait, à une sorte de réalité nocturne qu'on essaye la plupart du temps de refouler, parce que sinon c'est trop inquiétant.
Mais du coup, Florence Sévaux, c'est vrai que j'ai envie de vous demander si grandir, devenir adulte, entrer dans le monde des adultes, sont des expressions qui sont désolantes, mutilantes pour vous. Est-ce que grandir, ça signifie se couper d'une réalité qui alimente l'écriture, mais une réalité que nous devrions au contraire préserver?
Non, je regrette finalement pas d'avoir grandi, mais ça fait pas si longtemps peut-être. parce que quand même, le devenir adulte nous apporte plein de choses passionnantes et merveilleuses, comme de pouvoir exercer un métier qu'on aime ou avoir des enfants. Et
peut-être souffrir moins. C'est pas sûr, je viens de dire une bêtise.
Pas de la même façon, c'est vrai. En revanche, quand on est enfant, vous parlez de l'expérience de la souffrance, il me semble qu'on éprouve une forme de solitude qui est très très particulière, parce qu'elle n'est pas du tout partageable. On peut se sentir très très seul quand on est adulte, mais d'une certaine manière, on sait que c'est un sentiment qui existe. Et quand on est enfant, l'image toujours qui me vient, c'est comme si on était seul dans une église et une cathédrale, avec des sensations et des sentiments qui résonnent terriblement, et on a le sentiment d'être anormal, comme Anna.
Votre narratrice, votre héroïne de ce livre, Une bête aux aguets, Florence Sévaux, elle s'appelle Anna, et on va la suivre un peu de manière d'ailleurs chaotique, comme lorsque les souvenirs nous reviennent, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans. À 12 ans, elle a été gravement malade. Depuis, elle doit prendre des médicaments qui la mettent dans un état particulier. On va écouter une première lecture des sentiments et des ressentiments d'Anna.
Je parle des bruits et des voix que j'entendais, mais depuis ma maladie, tout était différent. C'était comme si la réalité s'était fracturée et me laissait entrevoir un gouffre, une fente entre deux pans de rideau. Par moments, la lumière venait de derrière le rideau et les personnes autour de moi ressemblaient alors à des ombres. J'étais presque toujours sur le qui-vive. J'avais peur, je ne savais pas exactement de quoi, mais je m'attendais à être attaquée, que je sois en classe, au cinéma ou seule dans ma chambre. Derrière le rideau, quelque chose me guettait. Une bête invisible, animée de la plus pure sauvagerie, qui un jour bondirait pour me déchirer le visage. Je sais maintenant que si ma mère ne voulait pas que je reprenne le collège trop vite, c'était pour me garder sous surveillance. Pour voir comment j'allais réagir. Pour voir comment j'allais supporter ma nouvelle nature et le traitement qui allait avec. En apparence, je ne réagissais pas. Pendant près de 3 ans, j'ai fait comme si rien n'avait changé. J'ai terminé le collège, puis je suis allée au lycée, j'ai passé du temps avec mes camarades, je suis partie en vacances avec ma mère, j'ai déjeuné ou dîné avec mon père, quelquefois, et tout ce temps, je vivais dédoublée. En apparence, j'étais plus calme qu'auparavant. Mon ancien moi, relégué au rang de témoin, assistait aux journées de mon nouveau moi, la fille qui entendait des voix et restait sur le qui-vive. Mon caractère aussi avait changé. J'avais l'impression de me foutre de tout. Rien ne m'importait, à part la nécessité de surveiller et tenir à distance ce qu'il y avait derrière le rideau. Et à part une sorte d'avantage, de privilège que j'attendais, que je désirais. J'en ignorais la nature exacte, mais parfois le matin je me réveillais légère et le cœur battant à la pensée que cette chose allait m'être donnée. Pour le reste, j'étais froide intérieurement, détachée. J'avais tout le temps l'impression de faire semblant et de ne plus éprouver d'affection pour personne.
Florence Sévos, Une bête aux aguets, ça fait penser au livre d'Henry James, La bête dans la jungle. Là aussi, il y a ce côté dédoublement, attente d'un événement terrifiant, mais qui en même temps est presque exaltant. En fait, Anna, elle aime assez être différente des autres. Est-ce que ça aussi, ce sentiment de frôler le mystère est quelque chose qui, à l'adolescence, enrichit en fait le monde des enfants pas encore adultes?
Mais j'ai l'impression qu'on peut facilement être partagé entre, comme vous le dites, un sentiment d'exaltation qui est lié comme à la perception de pouvoir nouveau, et en même temps on peut être terrifié, et surtout on doute profondément de soi. Et il me semble qu'une des choses en fait qui se produit à cet âge-là, pour le dire très simplement, c'est la peur de ne pas avoir de cœur. Parce qu'on doute de nos propres sentiments, on se demande si nos relations avec les plus proches sont des leurs. Et c'est pour ça aussi, enfin, j'ai toujours aimé lire des livres depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et par exemple, j'ai découvert tard, enfin je l'ai pas découvert tard, j'ai fini par le lire tard, mais je savais que ça serait un des livres les plus importants pour moi, le Tour d'écrou d'Henry James. Et ces livres qui flirtent en quelque sorte avec le fantastique sans tout à fait y appartenir, j'ai l'impression qu'il parle justement de ces questions qu'on ne formule pas et de la crainte au fond de la perception de soi-même comme d'un monstre.
Oui, puis c'est surtout, on sent bien là dans la description que vous faites des symptômes d'Anna, en tout cas de ce qu'elle ressent, c'est qu'au fond, on ne franchit jamais cette barrière du fantastique. Elle ne voit pas et on peut toujours penser que c'est dans son imagination. Mais c'est aussi parce que à cet âge-là, les frontières sont poreuses entre la réalité et l'imaginaire, entre la normalité, si l'on peut dire, et la folie, entre la bonne santé et la maladie. C'est un âge où le corps est en tel bouleversement qu'on comprend que le monde aussi peut être en bouleversement dans la manière dont on le perçoit.
Oui, et souvent à cet âge-là, en fait, mais ça peut se produire plus tard aussi, on est beaucoup plus perméable, on a l'impression d'être tout à coup traversé par le monde. On n'a plus les mêmes défenses. Et puis aussi, je pense qu'on, même si on n'en a pas tout à fait la preuve, on perçoit aussi le pouvoir de l'inconscient, cette part de nous-mêmes. Et bien sûr, dans les livres qui flirtent avec le fantastique, il est beaucoup question de cela.
Parmi les livres que vous avez écrits, Florence Sévos, je pense beaucoup aux livres pour la jeunesse, et notamment à l'un d'entre eux, que personnellement j'adore et que je n'arrête pas de lire à mon petit-fils. Ça s'appelle La Tempête. Et l'héroïne, Clarisse, la nuit, il pleut beaucoup, il y a du vent, et en fait, l'étrangeté arrive dans son univers, son lit devient un bateau, et elle embarque avec ses parents. Et en lisant Une bête aux aguets, et ce qui se passe dans la tête et dans la vie d'Anna, je me disais que, au fond, Anna, c'était Clarisse un peu plus grande, un peu plus vieille. C'est la même, au fond.
Oui, c'est la même qui, au début de l'album, je crois qu'elle dit que c'est ce soir que la tempête arrive, mais elle n'a pas du tout peur, elle a hâte que ça commence, elle ne sait pas exactement si elle préfère que sa maison reste en place ou que sa maison s'envole. Et c'est vrai que ça, Anna est un petit peu dans la même situation. Il y a quelque chose aussi, dans la tempête, la sauvagerie est à l'extérieur, elle est dans les éléments qui se déchaîne, la pluie qui finit par entrer dans la chambre et le vent. Et à la fin, il ne reste plus que le lit qui est devenu un bateau. Mais la sauvagerie, elle est aussi en nous-mêmes. Et il me semble que voilà, par exemple, à travers cette histoire de comprimé que doit prendre Anna depuis sa maladie ou sa guérison, c'est jamais très clair dans le livre. Est-ce que les troubles ont commencé à cause de la maladie ou à cause du traitement? Mais ces comprimés qu'elle est censée prendre sans faillir, en fait, la guérissent et en même temps la contiennent. Et je me dis parfois qu'en fait, depuis notre naissance, j'y pensais aussi parce que pour décrire certaines choses que ressent Anna, me sont revenus très spontanément des souvenirs de lecture de, par exemple, du pédopsychiatre Winnicott, des choses sur les sensations. Enfin, il décrit de façon extraordinaire les sensations des nouveau-nés, et notamment la sensation de la faim chez un nouveau-né. Il dit qu'on abrite une meute de loups qui à la fois nous rend absolument sauvages et en même temps qui nous dévore à l'intérieur. Et cette image m'est revenue, en fait, pour parler d'Anna, et je me dis que, en fait, depuis notre naissance, nous ne faisons que contenir, que nous débrouiller avec ce fond de nature sauvage.
My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Florence Sévos, Anna vit avec sa mère puisque ses parents sont divorcés et sa mère est très fragile, pour ne pas dire en dépression. Et du coup, ce que vit Anna, on sent bien qu'elle veut en protéger sa mère. Comme si dans cette relation mère-fille, fille-mère, c'était au fond la plus jeune qui essayait d'arranger la vie pour l'adulte, pour sa mère. Ce lien si particulier, il joue quel rôle aussi dans les symptômes d'Anna pour vous?
Alors, pour moi, le lieu de la relation entre Anna et sa mère est le lieu un peu de l'exaltation de ses symptômes. parce que, par exemple, c'est une des personnes avec qui elle est en télépathie et de façon très spontanée, très naturelle. Il y a une scène où, quand sa mère part à l'hôpital, Anna raconte qu'elle va la voir tous les week-ends, qu'elle dort dans sa chambre et qu'en fait, dans ces moments-là, elle pénètre les pensées de sa mère. C'est comme si une porte était ouverte et elle s'y engouffre et elle assiste au flux des pensées de sa mère et donc éventuellement à ses souvenirs. Et elle fait ça, elle ne se pose aucune question de violation d'intimité, elle n'a pas de scrupules. Et il me semble qu'Anna et sa mère en fait sont très possessives l'une envers l'autre. À un moment dans le livre, on peut se demander en fait si tout ce qui est arrivé à Anna n'a pas été initié par sa mère, puisqu'à un moment elle rencontre un médecin avec qui sa mère a eu une liaison autrefois. Enfin, est-ce un médecin ? Ça, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, c'est un homme qu'Anna a brièvement rencontré quand elle était toute petite. Et il s'est passé quelque chose entre eux qui est de l'ordre, en fait, de l'adoption choisie.
Et d'ailleurs, il lui a même donné un nouveau prénom.
Il lui a donné un nouveau prénom. Et comme par hasard, en fait, elle va devenir, d'une certaine manière, réellement sa fille. Donc ça, on peut se dire que c'est un excès de pouvoir de la part de la mère, que sûrement elle a éprouvé ce désir-là de fonder une autre famille que celle qu'elle avait. Mais Anna aussi exerce une sorte d'abus de pouvoir sur sa mère en considérant que tout ce qui est à l'intérieur de sa mère lui appartient. Et puis il y a aussi un mouvement de balancier entre elles. En fait, plus les pouvoirs d'Anna semblent augmenter, se libérer, puisqu'il y a des choses étranges qui augmentent quand elle cesse de prendre l'un des médicaments, et bien plus Anna en fait s'habitue à ses nouvelles perceptions et à son nouveau sentiment de puissance, et plus sa mère décline, devient fragile, au point en fait d'être dans une sorte de dépression très grave et de partir à l'hôpital. Oui.
Alors ce qu'il y a aussi de très bouleversant dans la description que vous faites dans ce livre, Florence Evos, du lien mère-enfant, la mère-fille en l'occurrence, c'est la certitude de l'amour absolu de la mère pour son enfant, y compris dans ces moments très déchirants que ressent une mère lorsque l'enfant qui faisait partie intégrante d'elle-même s'en sépare. On va écouter une autre lecture de ce moment.
Un jour, me disait-elle, tu t'es séparée de moi. Tu étais toute petite, je m'en souviens très exactement, tu avais 4 mois et je te tenais sur mes genoux. Tu as regardé autour de toi, longuement, et quand tes yeux sont revenus vers moi, tu étais différente. En une seconde, tu t'étais détachée de moi, et j'ai compris que c'était irréversible. Depuis des mois, je me préparais à vivre cet instant, je savais que c'était un événement heureux et que je devais m'en réjouir, mais ce que j'ignorais, c'était qu'à cet instant précis, tu deviendrais une personne inconnue. Avant, tu n'étais pas une inconnue pour moi, tu étais seulement infiniment mystérieuse. Ton regard était accroché au mien comme si notre vie à toutes deux en dépendait. Tu buvais en silence mon visage et ma voix. Et j'étais aspirée dans ton mystère. Je m'y précipitais tout entière. Qui tu étais, qui j'étais moi-même, ça n'avait aucune importance. Ce matin-là, en un instant, j'ai vu l'inconnu que tu resterais toujours. Et je ne pouvais plus faire que 3 choses. Te regarder, t'être utile et avoir peur pour toi. Quand tu es tombée malade et quand ta maladie s'est aggravée, si tu savais comme j'ai eu peur pour toi. Peu m'importait ce qui arriverait pourvu que tu restes en vie. Peu m'importait que tu changes, que tu t'éloignes davantage. Tout à coup, pendant que sa voix me parlait, j'ai entendu la porte de l'appartement s'ouvrir et se refermer. Et j'ai compris qu'elle venait de partir. Affolée, j'ai voulu me lever pour courir et la rattraper dans la cage d'escalier, mais elle m'a supplié de ne pas bouger et de l'écouter encore. Tandis que je l'imaginais descendant les étages et s'éloignant dans la rue, sa voix m'a dit « Et maintenant, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?» Rien, rien, je crois. Je te suis aussi inutile qu'une robe trop petite. Je ne peux que te regarder. » J'ai moins peur pour toi maintenant. Parfois, c'est de toi que j'ai peur. Ai-je vraiment peur de toi ? Oui, un peu. Tu as tant de pouvoir sur moi. Et ce n'est pas grave.
Florence Evos, c'est une description tellement intime et bouleversante du lien d'amour, d'amour filial, d'amour ressenti par Anna pour sa mère, de la mère dont elle pénètre les pensées à ce moment-là et qui, au fond, lui apprend presque en abrégé, comme s'il y avait, la nécessité d'agir vite, parce que sa mère va rentrer à l'hôpital et peut-être n'en sortira pas, de lui dire très vite ce qu'était le métier d'une femme, ce que c'est que de devenir une femme. Et au fond, dans ce livre aussi, on assiste à ça. Anna est en train de devenir une femme en pénétrant les pensées de sa mère et en découvrant la sexualité avec Ariel, prénom shakespearien s'il en est. Et donc, en fait, dans ce livre, on assiste à cette transformation d'un enfant asexué, indéterminé. Elle devient une femme pour le pire et pour le meilleur.
Oui, elle va apprendre ce qu'a compris sa mère, c'est-à-dire qu'en fait, même les personnes les plus proches et les plus aimées, au fond, demeurent des inconnus, il me semble. Et je me souviens, je fais un petit détour, d'une phrase d'une amie quand ses enfants avaient été préadolescents, elle avait deux garçons, et elle parlait d'eux en disant « ces types charmants qui habitent chez moi ». Et je trouvais ça extrêmement, absolument délicieux et infiniment juste. Et évidemment, si on ne garde pas à l'esprit, d'une part, qu'un enfant commence à prendre une forme d'indépendance très 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 tôt, moi, je dirais que le premier signe de cette indépendance se manifeste presque, disons, autour de 4 mois, il devient perceptible. Et si on ne s'habitue pas à cela, on va au-devant de grandes déconvenues. Mais aussi, en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui marche dans les deux sens. C'est qu'il y a une sorte d'idée absolue du lien parent-enfant et en particulier du lien mère-enfant, et que, par exemple, quand on est enfant, la façon dont on aime sa mère, en fait, c'est comme s'il y avait une mère qui préexistait à notre mère. Et notre amour pour cette mère-là, qui préexistait ou qui était là au commencement, est absolu. Et il y a des moments où, en fait, la mère réelle flirte, croise cette mère absolue. Et il me semble que ce sont des moments qu'on recherche sans le savoir, qu'on espère, et qui ne viennent jamais au moment où on les attend. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cette sorte, à l'inverse, c'est-à-dire que notre enfant, quand on a un enfant, il cesse très vite d'être... il devient un inconnu, quoi. Il cesse d'une certaine manière d'être notre enfant. Et pourtant, il y a des petits moments fugaces où on va retrouver quelque chose, voilà, d'un lien indéfectible.
Alors, il y a aussi un écho qui court tout au long de ce livre, Florence Evos. C'est l'écho des livres de Kafka. D'ailleurs, il y a des moments où c'est très clair, lorsque Anna dit que sa mère parfois la regarde comme si elle-même était en train de devenir un insecte. Et puis c'est surtout ce sentiment de honte, alors qui est très consubstantiel à l'adolescence. L'adolescent, et surtout les filles dont le corps est en train de changer, ressentent en permanence cette honte brûlante de ne plus être ce corps pur du petit enfant et de devenir quelque chose d'informe dans lequel on ne se sent plus habité. La honte, c'est aussi le fil rouge sur lequel Anna tente tant bien que mal d'avancer.
Oui, elle est absolument taraudée par la honte. Ça ne la lâche pas, c'est comme un poison qui serait entré en elle et dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Et d'ailleurs, à un moment, elle se fait une plaie et elle trouve que son sang est bizarre. Et elle repense à une scène dans Barbe Bleue où la femme de Barbe Bleue a franchi l'interdit et a utilisé la petite clé. Et elle ne peut pas débarrasser la clé du sang qui l'attache. Et oui, ça peut aller même jusqu'au sentiment de sa propre abjection. Et il me semble que c'est quelque chose de vraiment de très brûlant et douloureux qui arrive à l'adolescence.
D'ailleurs, il y a un passage dans votre livre qui est le moment, le seul d'ailleurs, où Anna voit son père. De temps en temps, elle va déjeuner avec lui. Et c'est évidemment dans le regard du père qui ne reconnaît pas sa petite fille, mais qui est en face maintenant d'une jeune fille et qui ne sait plus comment se comporter avec elle, et que Anna va transformer en abjection d'elle-même.
Excuse-moi, ma chérie, m'a-t-il dit pendant que nous roulions. Je m'aperçois qu'il flotte une mauvaise odeur dans cette voiture, je suis désolée. Il a baissé la vitre de son côté. Surtout, dis-moi si tu as froid. Ma manie de manger en conduisant, j'ai dû laisser tomber un morceau de sandwich sous le siège. C'est affreux. Je lui ai dit que l'odeur ne me gênait pas. À vrai dire, je ne sentais rien, à part un vieux fond de tabac froid. Tu n'es pas trop gênée par le courant d'air, tu es sûre ? Il va falloir que je nettoie cette voiture de fond en comble. Cette odeur l'obsédait. Et lorsqu'au restaurant, il m'a aidée à enlever mon blouson, il a eu un mouvement de recul et m'a chuchoté « Même ton blouson est imprégné, je suis tellement confus, ma chérie. » Nous nous sommes installés à notre table habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur les serres. Et pendant que nous choisissions notre menu, je l'ai vu pencher la tête pour humer discrètement le col de sa veste. À cet instant, j'ai su que cette odeur qui l'incommodait tant était la mienne. Après que nous avons passé la commande, je suis descendue aux toilettes. J'ai respiré l'intérieur de mon t-shirt, mes aisselles, mes cheveux. Je ne sentais rien. Je me suis mise à claquer des dents. Je me suis regardée dans le miroir, encadrée par deux lampes en forme de lys, jaune et sale, dont la lumière était très faible. Il m'a semblé que ma transpiration, mon haleine, mon regard, tout ce qui émanait de moi trahissait mon abjection. Je voulais contenir cette abjection, la comprimer en une pierre ronde et dure que j'aurais dissimulée sous mon plexus. Mais c'était aussi vain que de vouloir empêcher une fleur d'exhaler son parfum. Je suis retournée m'asseoir en face de lui. Il regardait distraitement par la fenêtre. On nous a servi les entrées et j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Il avait l'air troublé, il fuyait mon attention. Il ignorait ce qui le troublait et moi je le savais. Il ne me reconnaissait pas. Mais c'est moi, papa, c'est toujours moi, je suis toujours la même personne. J'essayais d'imprimer cette pensée dans sa tête. Et il m'a semblé qu'à son insu, il me répondait « Non, ce n'est pas toi. Tu as changé et il y a quelque chose en toi dont j'ignore la nature et qui me fait horreur. »
Florence Evos, il y a ce sentiment que, je pense, la plupart ou toutes vos lectrices vont reconnaître dans ces pages. C'est ce moment où, effectivement, le père cesse d'être ce père nourricier qui pouvait prendre dans ses bras le corps de l'enfant. Les filles deviennent des femmes et il y a tout d'un coup un gouffre qui s'ouvre entre le père et l'enfant. Et au fond, il va falloir pour les deux réapprendre à se voir, à trouver la bonne distance, à trouver les bons gestes. C'est un moment aussi de l'adolescence qui reste inoubliable, en fait.
Oui, il peut y avoir un rejet extrêmement violent et ensuite, effectivement, une perte de toutes les habitudes et un langage à réinventer, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Cette Anna, elle fait aussi beaucoup penser, évidemment, à Alice, qui passe de l'autre côté du miroir. Et comme Alice, au fond, Anna, il faut qu'elle puisse revenir du bon côté. Il ne faut pas qu'elle reste fascinée par ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Au fond, on disait au début de l'émission, c'est quoi grandir ? Ça consiste en quoi ? Ça consiste à pouvoir repasser du côté où on se voit vraiment dans un miroir tel qu'on est ?
Oui, repasser. Il y a un moment où d'ailleurs Anna se regarde dans un miroir et elle vit la même expérience que Freud raconte et qu'il a nommée l'inquiétante étrangeté. Quand on est face à son reflet et que tout à coup on ne se reconnaît pas. Et pardon, j'ai perdu la question en route.
Oui, en fait, je m'interrogeais toujours sur qu'est-ce que ça veut dire grandir pour le mieux ? Est-ce que ça veut dire ne pas se laisser fasciner par ce qu'il y a de l'autre côté du miroir et savoir à temps repasser par la petite porte, revenir du côté des vivants, au fond, ne pas être happé par le côté sombre, le côté des morts, peut-être.
Oui, sûrement. Enfin, c'est probablement pour ça que le tour d'écrou d'Henry James m'est tellement cher, puisque c'est l'histoire d'une gouvernante d'enfants, dont les enfants dont elle s'occupe, une fille et un garçon, en fait, sont hantés par un couple de fantômes qui tout le temps tentent de les attirer de leur côté à eux, et elle n'a pas les moyens de lutter contre cette force qui peu à peu, enfin, qui séduit et prend possession des enfants. Et je me disais aussi que, en fait, pour écrire ce livre, c'est comme si j'avais ouvert une porte à l'inquiétude et j'ai laissé un peu tout s'engouffrer. Alors parfois des sensations exaltantes ou agréables, et puis aussi des sensations d'angoisse et des sensations qui rendent le monde instable, irréel. Toutes les sensations qu'on peut avoir, et particulièrement en ce moment, je crois, en fait, de marcher un petit peu au bord d'un gouffre, ou en tout cas, pour le moins, sur un sol très instable et qui ne cesse de se dérober. Et peut-être que repasser de l'autre côté, en fait, c'est envisager de pouvoir vivre dans ce monde auquel parfois on ne croit pas tout à fait, mais en tout cas l'accepter comme une possibilité dans laquelle on va essayer de se débrouiller.
On parlait tout à l'heure des livres qui se répandent sous le sol comme des rhizomes et qui s'alimentent. Je dois dire que ce livre, Une bête aux aguets, dont nous venons de parler avec vous, Florence Sévos, il va longtemps résonner dans nos mémoires de lectrices, parce que il parle de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on aime aussi. Merci à vous, Florence Sévos, d'être venue nous voir. N'attendez pas 4 ans.
Merci.
Pour revenir, je ne serai plus là.
Merci beaucoup, Kathleen Eva. Merci.
Au revoir.
Au revoir.